Merci beaucoup pour ce culte. J'ai parlé avec plusieurs personnes depuis la marche de poste, comment je suis content avec cette communauté de voir faire la marche de poste, toutes les tranches d'âge qui étaient là. C'est intergénérationnel, ce poste, cette communauté, ça apporte beaucoup de bien à tout le monde. On apprend les uns avec les autres, les plus jeunes avec les plus âgés avec les plus jeunes. C'est vraiment une famille que Dieu met pour cheminer ensemble. Et vos participations dans le culte aussi sont très importantes. Ça enrichit tellement le culte de venir partager ce que Dieu est en train de faire, ce que vous vivez avec Dieu. C'est vraiment très précieux d'avoir un culte libre où les gens peuvent participer. Et ça, c'est pas seulement pendant le culte qu'il y a des choses qui se passent. En semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Cet après-midi, on a oublié d'annoncer, mais il y a aussi un groupe qui va dans les EMS pour faire de la musique, pour pouvoir leur communiquer qu'ils sont importants, que Dieu les aime, qu'il y a toujours de l'espoir, peu importe notre âge, peu importe où on est. Dans les semaines, il y a les cours de français où les professeurs, elles sont vraiment attentives à chaque personne. Il y a des gens qui sont des fois démotivés, tant par la situation dans leur pays, comme par des fois ils pensent « je ne vais jamais apprendre cette langue ». Et puis les profs, ils vont là, des fois vont leur téléphoner, vont leur écrire, mais ils disent « persévère, ça vaut la peine ». Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette communauté, c'est une bénédiction de Dieu, surtout. C'est une bénédiction de Dieu, et parce qu'il y a des gens qui sont engagés avec lui, qui sont en chemin, et qui décident de se mettre au service. Et je suis très content pour cela. Le quartier général a reçu récemment une demande assez étonnante d'une personne vivant à Orbe. Et je ne vais pas dire le prénom, parce que peut-être vous la rencontrez quelque part, mais je vais dire ce que ça a écrit. Ma demande concerne le retrait des écrits de l'apôtre Paul de la Bible, à savoir les livres suivants. Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, ainsi que supprimer ou corriger le livre Actes des Apôtres, car il contient la conversion de Paul, l'apôtre du diable. Attends, ce sont 15 des 27 livres du Nouveau Testament. C'est plus que la moitié. Et la lettre est suivie de 19 pages avec des arguments sur pourquoi les écrits de Paul devraient être retirés de la Bible. C'est absurde de croire qu'on retirerait un texte de la Bible juste parce qu'il peut avoir des passages controversés ou difficiles à comprendre. Depuis le début de l'armée du salut, on est d'accord avec les autres églises qui croient que les écrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été donnés par inspiration de Dieu, pas dictés mot par mot, non, ça non, mais inspirés. Les auteurs ont été inspirés pour écrire ce qu'ils ont écrit. Et on croit aussi que Dieu utilise ces écrits tels qu'ils sont écrits pour parler aujourd'hui au cœur des gens, pour rapprocher des gens de Dieu, pour changer des attitudes. C'est au travers de ces écrits que Dieu parle. Et puis, Cyril Cour, responsable de la formation, m'a écrit, c'est lui qui avait reçu la lettre. Il m'a écrit en plaisantant, « La tâche du nouveau stagiaire sera de convertir cette personne aux écrits de Paul. » Mais sans les lettres de Paul, cette série n'aurait pas eu lieu. Parce qu'on suit Paul dans trois phases de sa vie, en regardant les murs que Dieu a permis dans son chemin. Et la première phase a été la phase zélée pour Dieu, où Paul avait une sincère dévotion pour Dieu. Dans cette phase, il était convaincu que ce qu'il était en train de faire pour Dieu était la volonté de Dieu pour sa vie, et il s'était engagé à fond. Et là, Dieu l'arrête physiquement, avec un problème de vue, pour lui dire qu'il avait une autre manière de penser, qu'il fallait arrêter comme ça et puis réfléchir autrement. La deuxième phase a été le service engagé, où Paul redécouvre une mission pour sa vie. Il reçoit des dons de Dieu pour prêcher, puis il utilise ces dons en accord avec sa volonté, tout partout où il va. Il voit des fruits, il y a des gens qui se convertissent, c'est vraiment un ministère très béni. Et après 3 ans, un nouveau mur, il est envoyé par l'église loin de tout le monde à Tarse. Et pendant ce temps, pour un observateur externe, au moins, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi Dieu a permis qu'un de ses serviteurs fidèles soit laissé de côté? C'est difficile déjà à comprendre pour qui lit le texte, mais c'est encore plus difficile pour qui vit un temps de désert, un peu laissé de côté par toute l'Église. Du coup, le chapitre 10 d'Actes ne parle plus de Paul, le chapitre 11 ne parle plus de Paul. L'Église, par contre, elle continue à cheminer. D'autres nouveaux disciples de Jésus vont en Phénicie, ils vont à Antioche, et le texte dit, et ça sera affiché, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Et cette nouvelle arrive aux oreilles des disciples à Jérusalem, et puis ils sont très contents de toutes ces belles choses que Dieu est en train de faire, et ils décident d'envoyer quelqu'un pour les encourager. Et ils envoient Paul? Non! Ils envoient Barnabas à Antioche. Et le texte dit que Barnabas, à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein de l'esprit et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Donc Dieu peut faire son œuvre même sans Paul. Mais bien sûr que si, mais ce n'est pas pour ça qu'on va retirer ces écrits de la Bible. Dieu est toujours en action et il utilise les moyens qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et là, seulement là, dans cette partie de l'histoire, du coup, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Finalement, il est réintroduit. C'est comme si Dieu disait à Barnabas, c'est bon, allez, suffit. Va maintenant chercher Paul de ce temps de désert, du mur que j'ai mis sur son chemin. Et le dernier dimanche de cette série, j'ai raconté comment Dieu a dirigé les Staïès dans un parcours assez étonnant, de Lausanne à la Chaux-de-Fonds, ensuite en Hongrie, les hauts et les bas d'un temps d'attente, et maintenant leur grande joie de terminer leur temps là-bas pour revenir en Suisse. C'est une très belle histoire qu'ils m'ont permis de la raconter, qui a des liens avec ce que Paul a vécu. Et ça vaut la peine après de parler avec eux sur comment eux, ils ont vécu, surtout un certain temps de désert à la Chaux-de-Fonds. Donc Barnabas va chercher Paul et il entre dans une autre phase. Et la phase où Paul est maintenant est la phase foi simple. Lui et Barnabas sont envoyés officiellement par l'Église en tant que missionnaires et ils voyagent tout partout en annonçant Jésus. Ils annoncent que Jésus sort de plusieurs manières différentes. Et il y a des miracles qui se passent dans le cœur des gens. Les personnes reconnaissent que Jésus est Seigneur. Ils abandonnent leurs péchés. Ils recommencent une nouvelle vie avec Dieu. Puis un changement de vie, c'est un miracle. C'est peut-être le plus grand miracle qui peut arriver à quelqu'un qui change de manière de penser, qui change dans son cœur. Et parfois, dans son ministère, il y a eu aussi des miracles physiques qui se sont passés, comme celui-là. À Lystre, il y avait un homme qui se tenait assis car ses pieds étaient paralysés. Il était infirme depuis sa naissance et n'avait jamais pu marcher. Il écoutait ce que Paul disait. Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui dit alors d'une voix forte, « Lève-toi, tiens droit et sur tes pieds. » L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. C'est une foi très simple. Ce n'était pas une immense prière de guérison où il n'a pas organisé un culte pour guérir cet homme. C'était juste « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et puis voilà, l'homme a été guéri. Dieu l'a fait. C'était une foi très simple. Il y a eu aussi une EMI, une expérience de mort imminente. Un jeune homme du nom d'Eutychus s'était assis sur le bord de la fenêtre et il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du troisième étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Et le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. C'est juste affreux d'imaginer la scène. Je me mets à la place de tout le monde qui était là, la confusion que ça a pu avoir, un jeune homme qui tombe, tout ça. Mais encore une fois, c'est cette fois simple. Il le prend juste dans les bras et puis il annonce simplement ben, il va survivre. Et puis il a survécu. C'est une foi très simple. Ça va se passer et puis ça se passe. C'est très simple. Et dans cette phase, foi simple, Dieu aussi il met un mur dans la vie de Paul que certainement c'était assez dur de le vivre. Tu vois, Paul il avait vu vraiment beaucoup de miracles. Il avait vu le miracle des cœurs des gens, des personnes transformées. Et il croit en Jésus, il change d'attitude. Mais il a aussi vu Dieu, du coup, en faisant des miracles dans le corps des gens. Il y a aussi les portes des prisons qui s'étaient ouvertes, une fois, du coup, des choses physiques qui se sont passées. Et Paul raconte dans une lettre le mur que Dieu a mis, et il dit « Une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. » Et il a été guéri ? Non. Il m'a répondu « Ma grâce te suffit. » Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Ça a dû être quand même très frustrant. Lui qui, avec une foi simple, avait vu des miracles dans la vie des autres, un paralysé qui marche, un mort qui revient à la vie. Avec la même foi simple, il demande quelque chose pour lui, puis il ne reçoit pas. Pour cette difficulté-là, il n'a pas vu un miracle dans sa propre vie. Il n'a pas vu que ça arrivait pour lui-même. Ma mère, un peu comme tout chrétien de longue date, a vécu dans toutes ces trois phases. Ce n'est pas une après l'autre. Normalement, ça passe une après un autre. Puis après, ça revient dans une autre phase. On peut tourner. Et souvent, avec une foi simple, elle a vu des miracles dans son ministère et nous aussi, par conséquence. Par exemple, le couple de notre église qui avait une confirmation médicale de l'impossibilité d'avoir des enfants. Il y avait un document du médecin qui disait que c'était vraiment pas possible. Et puis, on les a vus réussir à en avoir. Et puis, ils l'ont appelé cet enfant Isaac, le fils de la promesse pour eux. Et puis après, ils en ont eu même un deuxième. Et là aussi, vu à une époque, c'était vraiment une église très jeune, il y avait très peu d'adultes ou de personnes âgées, c'était plutôt les gens entre 15 et 25 ans. Et puis à une époque, il y avait presque des filles, 12, 15 filles de cette tranche d'âge-là. Puis ma mère a commencé à prier, mais c'est un peu dommage, où c'est qu'ils vont trouver des partenaires qui aiment aussi le Seigneur pour se marier. Elle a commencé à prier, Seigneur, je voudrais la même quantité ou plus de garçons. Elle a commencé à prier comme ça, d'une manière simple. Et puis, un ou deux ans plus tard, elle revient au groupe de leadership et dit, regardez, on a dépassé. C'est pas que les filles ont parti. Elles restaient là, les 10-15 filles. Et après, le nombre de garçons aussi arrivait à plus que 10-15. Puis, il y avait une égalité plutôt entre les sexes. Ce qui, elle était très contente. Où il y a eu aussi, pour cela, elle a dû attendre plusieurs années. Ils voulaient acheter une propriété pour un centre de vacances, que les jeunes puissent aller dans ce centre de vacances, avoir des vacances bénies, chrétiennes, et ne pas juste rôder dans les rues en faisant n'importe quoi. Et après plusieurs années, aussi, ils ont pu trouver un bon endroit, puis trouver aussi les finances pour acheter une grande propriété, ce qui était assez étonnant. Mais c'était avec une foi simple. Il y a eu beaucoup d'autres, mais j'en cite juste celle-là. Mais par contre, elle, pour sa propre santé, surtout maintenant, elle a dû recevoir un nom de Dieu. Pour un certain souci de santé, surtout, elle a eu un désir sincère d'être guérie sans intervention médicale. Et non, ça ne s'est pas passé comme elle souhaitait avec sa foi simple. Lui fasse. Et la question est, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec tous ces murs qui ne sont pas toujours faciles à traverser? La première chose, c'est que Dieu utilise le mur pour travailler dans le cœur. Dieu veut utiliser ces murs pour travailler dans notre cœur. Cette semaine, on était avec Andy dans une formation pour toute l'Europe, aux Pays-Bas. Et puis on était à Utrecht, puis pour reconnaître le travail social de l'Armée du Salut et le travail pastoral aussi là-bas. Et en passant près d'un des canons, il y avait cet homme qui tapait dans cette pierre-là, très fort, pour la sculpter. Puis il tapait pour faire des trous. Et puis après, il passait la main pour voir si c'était bien lisse. Il voulait lisser cette pierre, qu'elle soit exactement comme lui, il voulait. Et c'est à peu près ce que Dieu veut faire dans notre cœur, au travers des murs. Il veut lapider, il veut que ça soit plus lisse. Et il utilise cette difficulté pour travailler dans notre cœur. C.S. Lewis, il écrit comme ça, « Dieu nous murmure dans nos plaisirs, il nous parle dans notre conscience, mais il crie dans nos souffrances. » C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. La souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller quand on est sourd. Et si on ne veut pas écouter, il va essayer de nouveau d'une autre manière. La deuxième chose que les murs peuvent contribuer, c'est que Dieu utilise le mur pour se révéler. Il veut se révéler de nouvelles manières au travers des murs. Chaque fois qu'un personnage biblique a fait face à un mur, il a découvert une autre partie de la personnalité de Dieu. Qui Dieu est, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit. Et en parlant de son parcours de zélé, Paul commente, j'approche de sa vie, il regarde en arrière et lui a dit, il regarde, oui, j'étais vraiment zélé à un moment donné. Et puis, il commente ce qu'il a appris. Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ, pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là, ce qu'il avait gagné en tant que zélé, comme des ordures. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qui l'a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Du coup, il est en train de dire que quand il était tout étourdi là, par terre, face à un mur, sans savoir ce qui s'était passé, où il était, qui était cette voix, ben, chercher, connaître Jésus, c'est ce qui peut nous relever dans ces moments-là. Nous faire avoir une résurrection dans la vie, dans ces moments. Et la troisième chose que Dieu veut avec un mur, c'est Dieu utilise le mur pour produire de nouveaux fruits, ouvrir de nouvelles possibilités pour produire des fruits. Jésus aussi l'a dit ça. Il a dit que le serment qui porte déjà des fruits, il taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais il les taille pour ça. Et ces dernières années avec le YEP, on a fait des prières un peu audacieuses. Chaque fois qu'on a fêté les anniversaires du semestre, on a prié pour que les jeunes aient peur et aient des défis. Qu'ils aient un peu de difficultés dans la vie. Ça va leur faire du bien. Parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin de Dieu. Des fois, quand tout va bien, on se dit, bon, j'ai pas besoin de Dieu. Regarde, j'ai du plaisir, tout va bien dans ma vie, j'avance bien dans les études, dans la famille. Mais c'est dans les difficultés qu'on remarque que sans lui, la vie manque de sens quand même. Elle est déjà belle, la vie, mais elle manque de sens sans Jésus. Et j'ai bien dit que c'est des choses que Dieu veut faire à travers ce mur, mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Est-ce qu'on est prêt à dire à Dieu, ben, c'est toi qui as le contrôle sur tout, c'est toi qui as le contrôle de ma vie, c'est toi qui as le contrôle de mon église. Fais ce que tu veux faire et mon cœur est prêt à être façonné comme ce gars qui travaillait sa pierre. Et comme prière pour la fin de cette série, j'aimerais qu'on chante « Oui, prends tout Seigneur » ensemble. « Seigneur Jésus, merci pour ton amour et ta patience envers nous. On n'aime vraiment pas faire face à des murs. Ça fait vraiment mal, Seigneur, de vivre ce genre de situation. Mais fais ce que tu as besoin de faire dans notre vie et autour de nous, à travers chacune de ces situations. Et prends tout et produis de nouveaux fruits pour ta gloire. Taille afin qu'on puisse produire encore plus de fruits, de meilleurs fruits, de nouveaux fruits. Pour que ton nom soit connu, pour que nous, on puisse te connaître aussi de nouvelles manières, Seigneur. Et qu'à la fin, c'est ton nom qui soit honoré. Amen.